Vous écoutez RTL. RTL en direct de l'équipe.
Éric Silvestro.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous Omnisport tous les dimanches soirs sur RTL, première radio de France, en partenariat évidemment avec l'équipe RTL en direct de l'équipe. On va parler Coupe de France, enfin des exploits cet après-midi dans les 32e de finale et notamment celui des Normands de Granville. Le ski français à l'honneur également ce week-end. Les filles en biathlon ont gagné le relais cet après-midi après le doublé de Martin Fourcade. On parlera aussi des belles perfs d'Alexis Pinturo et de Tessa Worley en alpin avec Fabien Sagaise, le directeur technique national, qui sera notre invité dans quelques minutes. Le baromètre sport Odoxa pour RTL et Groupama s'intéresse cette semaine, en ce début d'année 2018, aux perspectives du sport français pour 2018. Quels sont les événements qui vont vous faire vibrer, les Français ont répondu à nos partenaires d'Odoxa. Le rugby, le top 14 de la 15e journée, une affiche ce soir, Racing Clermont à la U Arena, que vous vivrez en direct pendant Rennes PSG sur RTL. Nous parlerons aussi de Guy Noves qui a vu Patrick Hisson, notre correspondant à Toulouse, cet après-midi. Et puis demain, réunion à Marcoussis pour la présentation officielle du nouveau staff du 15 de France autour de Jacques Brunel. Le handball, les Bleus ont terminé leur préparation pour le championnat d'Europe en Croatie par une défaite à Bercy cet après-midi face au Danemark 28-29. Le sélectionneur Didier Dinard sera notre invité également tout à l'heure à 19h45. Et puis le coup de cœur de Sylvain Charlet cette semaine sera pour Tess Ledeux. C'est une jeune skieuse qui fait du slopestyle.
En direct de l'équipe sur RTL,
Éric Silvestro.
La Coupe de France, donc, les 32e de finale. L'affiche tout à l'heure, ce sera Rennes-Paris Saint-Germain à 21h en intégralité sur RTL jusqu'à 23h ou minuit en cas de prolongation. Mais cet après-midi, il y avait énormément de rencontres. Je me tourne vers Bertrand Latour, qui est le monsieur Coupe de France ce week-end d'RTL. Alors hier, aucune surprise, Bertrand. Ça y est, au moins ce dimanche, cette fois, on en a eu des surprises, et particulièrement celle de Granville qui a éliminé Bordeaux.
Ah oui, une énorme surprise, la qualification de Granville, club de National 2, donc la 4e division française. Un scénario absolument incroyable, une égalisation pour les amateurs à la 94e sur un pénalty converti par Sullivan Martinet. Trois cartons rouges au total pour les Bordelais et donc le but de la victoire inscrit sur un autre pénalty à la 103e par Dounyama. Les Bordelais éliminés donc par Granville, club de 4e division, et donc la joie ou toute retenue justement de Joanne Gallon, l'entraîneur, qui refuse pour le moment de célébrer cette victoire.
Non, je savoure pas. J'ai peut-être plus tard dans la soirée, quand j'aurai bu un verre avec mes joueurs, j'aurai fêté un peu ça, peut-être que je vais commencer à savourer. Mais j'ai l'impression que ce qu'on vient de faire est normal. Alors je pense que je suis peut-être pas normal. On a tellement travaillé, tellement peaufiné, tellement préparé ce match, à avoir un tel contenu, un tel scénario, un stade plein, une victoire, que je me dis, on a fait notre travail. Donc j'espère que je vais vite savourer, parce que ces moments-là sont assez uniques dans une vie et il faut savoir les apprécier.
Joanne Gallon, mesuré donc, vous l'aurez compris, l'entraîneur avec Frédéric Veil.
Il y a failli, Bertrand, avoir un exploit peut-être encore plus grand, c'est passé tout près. Les amateurs de style Régional 3 ont tenu tête à des pros de Ligue 1, mais ont perdu finalement.
Et donc oui, la Régional 3, c'est la 8e division française. Ils se sont inclinés 1-0 sur leur terrain face à 3. Le but d'un ancien Benjamin Nivet, le meneur de jeu troyen, 40 ans, qui a permis de la tête à son équipe de se qualifier. Donc 1-0 pour les Troyens face à style grâce à ce but à la 80e minute.
Les autres principaux résultats et les qualifications de l'après-midi, Bertrand.
Oui, il y a donc pas mal de clubs de Ligue 1 qui se sont qualifiés, à l'image de Nantes, succès 4-0 face à Senlis, la victoire également de Metz, 4-2 contre Dunkerque, qualification aussi pour Saint-Etienne, 2-0 face à Nîmes, ça passe pour Marseille après prolongation, 1-0 face à Valenciennes grâce au but de Jordan Amavi. Il y a des clubs qui ont été éliminés, à l'image d'Angers, défait 2-0 face à Lorient, club de Ligue 2. Vous avez également Amiens qui a perdu, et un naufrage, même 6-0 la défaite des Amiénois face à Sochaux. Qualification également d'Épinal, qualification de Bischheim. Vous avez également une prolongation en ce moment même entre Vannes et le stade Briochin, 0-0 après 97 minutes de jeu.
Voilà pour tous les résultats pour l'instant des 32e de finale de la Coupe de France. Le dernier match, ce sera Rennes-Paris Saint-Germain tout à l'heure à 21h, à vivre en intégralité. Le dernier match de ces 32e sera lui demain entre Lens et Boulogne-sur-Mer, le derby avant le tirage au sort évidemment des 16e de finale. On marque une courte pause dans RTL en direct de l'équipe. Ensuite, on parle ski et rugby.
RTL en direct de l'équipe.
Éric Silvestro.
À 19h35, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour votre rendez-vous Omnisport sur la première radio de France. Nous allons parler du ski parce que nous sommes à moins de 5 semaines maintenant des Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang en Corée du Sud, et les athlètes français ont l'air en forme. Jean-Michel Rascol, qui connaît tous ces sports alpins et tous les sports olympiques par cœur est avec nous. Salut Jean-Michel.
Bonsoir.
On va revenir dans quelques minutes. Fabien Sagaz, le DTN de la Fédération Française de Ski, devrait nous rejoindre. On revient d'abord sur le week-end de biathlon. Évidemment, il y a ce magnifique doublé de Martin Fourcade à Oberhof qui a gagné le sprint et la poursuite en faisant la nique un petit peu aux Norvégiens.
Le mot est juste.
Oui, c'est un peu ça. Qui ont tenté un peu de le déstabiliser. Martin Fourcade bien au-dessus, en tout cas au classement général. Et puis, même les filles s'y mettent puisqu'elles ont gagné le relais cet après-midi. Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier, Célia Aymonier et Justine Brezaz. Les biathlètes sont là.
C'est une belle démonstration de Fourcade parce qu'il n'est pas le plus rapide sur les skis. Ce sont les Norvégiens qui obtiennent, Johannes Bø notamment, les meilleurs temps, les meilleurs chronos sur les skis. Et pourtant, il est devant parce que sa dextérité au tir à chaque fois fait mouche. Il est devant, il prend peut-être davantage de temps, il soigne son tir et à l'arrivée, il a toujours quelques mètres d'avance. En l'occurrence, ce week-end, il avait même une centaine de mètres d'avance sur ses poursuivants les plus dangereux. C'est une belle démonstration de Fourcade, c'est une belle démonstration des filles qui montre que ce sport individuel, lorsqu'il est récité en équipe, eh bien, a aussi de belles valeurs pour l'équipe de France, puisque le relais disputé par les filles dans des conditions assez difficiles a été remporté de haute lutte cet après-midi.
Ah oui, un brouillard incroyable sur les épreuves de biathlon, et notamment chez les garçons, c'était absolument terrible, on n'y voyait rien. Écoutez, Anaïs Chevalier, qui est l'une des quatre relayeuses françaises, donc vainqueur du relais cet après-midi, elle a pris beaucoup de plaisir sur les skis.
Oui, j'étais bien et puis j'ai été aidée par des super skis que les techniciens nous avaient bien concoctés. Donc je me suis vraiment amusée sur la piste ce matin, contrairement au pâtir où c'était un petit peu plus laborieux. Mais je me suis vraiment amusée sur la piste et voilà, ça fait un beau résultat à la fin.
Très beau résultat pour les biathlètes français. Je voudrais qu'on accueille également Émile Leclerc, le directeur d'études d'Odoxa, qui est avec nous. Salut Émile.
Salut Eric.
Pourquoi ? Parce que notre premier baromètre sport Odoxa pour Groupama et RTL de l'année 2018 se concentre sur les événements majeurs à venir de 2018. Et vu qu'on est en train de parler des sports d'hiver et des JO de Pyeongchang en Corée, eh bien, ils arrivent d'ailleurs en très bonne position dans les événements souhaités à suivre par les Français.
Oui, c'est exactement ça. On leur a posé la question de savoir quels événements ils attendaient le plus. Alors évidemment, il y a la Coupe du Monde de football, puisque vous savez que c'est l'événement le plus suivi au monde. En France aussi, c'est à 30% qui arrive en tête. Et juste derrière, à 23%, on a les Jeux Olympiques d'hiver, qui sont un peu plus confidentiels de manière générale. Mais voilà, les Français attendent beaucoup cet événement. 23%, juste devant le Tour de France, à 15%. Ils voient d'ailleurs une belle année pour le sport français. 87% pensent que les sportifs tricolores vont briller cette année sur les pistes, sur les terrains et sur les pentes de ski, évidemment.
Et Émile, on a évoqué Martin Fourcade, qui a pris la tête, qui est en tête du classement général de la Coupe du monde de biathlon, qui a réussi le doublé ce week-end. Lui aussi, il arrive même en tête dans les personnalités que les Français voient briller en 2018.
Oui, c'est ça. Vous savez, en fin d'année, on élit toujours la personnalité sportive de l'année. Là, on a demandé aux Français de pronostiquer, donc c'est pas évident. Mais ils voient Martin Fourcade en tête devant deux footballeurs, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, qui sont à 16 à 14%. Et Martin Fourcade est assez largement devant, 21%. Donc pour un sportif, un biathlète, le biathlon n'est pas un sport de premier plan. C'est une performance exceptionnelle de doubler comme ça des joueurs de football. Oui, donc on compte sur lui pour faire au moins aussi bien qu'à Sochi, c'est-à-dire qu'il avait eu 3 médailles à l'époque.
Vous rappeler que le champion RTL Sport France 2017 était Teddy Riner. Bon, cette année, il aura une année un peu plus cool, Jean-Michel Rascol, Teddy Riner. Donc peut-être que d'autres, il laissera la place
ça
un peu aux autres.
Ça sera peut-être l'occasion d'accueillir Martin Fourcade.
Eh oui, pourquoi pas. On parle aussi des skieurs alpins, Jean-Michel, parce qu'il y a eu un beau week-end. Tessa Worley qui a été deuxième du géant de Kranjska-Gora hier, derrière l'intouchable Michael Achifrin. Et pareil pour Alexis Pinturo, un cinquième du slalom cet après-midi à Adelboden, troisième du géant hier. Là aussi, il y a un doublé de Marcel Hirscher. Les Français sont là, mais il y a ces deux tête d'affiche, quoi. Hirscher chez les hommes et Schifrin chez les filles, qui semblent imbattables.
Oui, Tessa est peut-être plus près de Schifrin que Pinturo ne l'est de Marcel Hirscher, encore que dans le géant hier, Pinturo a fait de très belles performances puisqu'il termine troisième, et cet après-midi, il termine cinquième donc du slalom d'Adelboden. C'est sa meilleure performance depuis 2 ans, et d'ailleurs c'était déjà à Adelboden il y a 2 ans, il avait terminé quatrième. C'est vrai, en slalom, il est un petit peu derrière, il a des problèmes de matériel qu'il est en train de résoudre, notamment sur la neige pas assez dure. Sur la neige dure, ses skis aide vont très bien, mais sur la neige un petit peu plus friable, il connaît quelques difficultés d'appui.
Bon, et puis on est désolé de Fabien Sagaz qui apparemment n'est pas joignable ce soir au téléphone, le directeur technique national de la Fédération Française de Ski. C'est pas grave, il sera avec nous pendant les Jeux Olympiques pour commenter, on l'espère en tout cas, les belles médailles obtenues par tous les skieurs et les biathlètes français.
En direct de l'équipe sur RTL.
Merci également à Émile Leclerc donc pour le baromètre sport Odoxa pour RTL et Groupama. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet d'étude. On parle rugby maintenant, Jean-Michel. Vous restez avec nous encore quelques minutes avant de prendre la direction de la U Arena pour Racing Clermont ce soir. Grand rendez-vous demain à Marcoussis avec la présentation du nouveau staff du 15 de France autour de Jacques Brunel.
Oui, il y a trois temps forts. Il y a d'abord cette présentation avec Jacques Brunel et ses adjoints, Jean-Baptiste Elissalde, Sébastien Bruno et Julien Bonner. Vous savez, l'ancien deuxième ligne,
très
bon pour capter les ballons en touche. Ce sera sa spécialité au sein de cet encadrement. Et puis derrière, il y aura bien sûr une photo de famille, mais avec les entraîneurs du top 14 qui sont conviés demain après-midi à Marcoussis pour une discussion, pour ouvrir un petit peu les portes du 15 de France à ses techniciens. Et si tout se passe bien, en fin d'après-midi, il y aura ce qu'on appelle un point presse, c'est-à-dire un échange avec la presse, avec justement le staff, mais aussi les entraîneurs. Il faut espérer que ça se passe bien.
Alors l'ouverture au top 14 et aux entraîneurs du top 14, c'est un peu le point central évidemment. C'est aussi un peu la raison pour laquelle on essaye d'écarter Guy Noves, l'ancien sélectionneur, pour faute lourde.
C'est la raison invoquée en tout cas. Et donc, je ne sais pas si elle est réelle, mais elle est invoquée.
Il y a un gros débat autour de ça. Patrick Hisson, notre correspondant à Toulouse, a rencontré Guy Noves, l'ancien sélectionneur, cet après-midi à Toulouse. Eh bien écoutez, justement, très très en colère Guy Noves.
La colère est mauvaise conseillère, donc je vais essayer de garder mon sang-froid. J'ai mis la suite de ma vie dans les mains de mon avocat. Je vais essayer de faire confiance aux gens qui m'entourent. Ma famille est très 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 proche de moi, avec beaucoup de compétences aussi. Donc la colère, je vais la garder froidement. C'est vrai qu'elle est mauvaise conseillère. Donc je vais essayer surtout de garder les pieds sur terre et surtout de retrouver, j'espère, progressivement mon honneur, au moins pour les miens.
Et de retrouver un travail aussi, ça fait partie des choses auxquelles vous pensez ?
Là, je ne pense pas du tout au travail. Je pense surtout d'abord à récupérer de ce qui vient de m'arriver. Effectivement, j'ai encore un an de travail à observer pour prendre ma retraite normale. Mais c'est vrai que, comme certains disaient que nous étions à cet âge-là des papis, je vois que c'est un papi qui remplace un papi, donc c'est assez sympa. Ça me fait bien plaisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un papi à cet âge-là n'est pas un papi. Et c'est quelqu'un qui est capable de bosser, de bien bosser.
Je retiens, Jean-Michel Arascol, que Guy Noves parle de retrouver son honneur. Il est extrêmement marqué par ce qui s'est passé. On sent que la bataille va être longue et rude au niveau des avocats.
D'autant qu'il a mis sa vie entre les mains de ses avocats.
Et ça va être compliqué. Le 15 de France qui joue quand même le tour à destination à partir du mois de février dans une atmosphère qui sera forcément particulière.
Oui, il faudra un rideau entre le 15 de France et les problèmes éventuellement entre la Fédération et Guy Noves pour qu'au moins le 15 de France puisse préparer ce tournoi dans de bonnes conditions qui démarre, il ne faut pas l'oublier, par une réception de l'Irlande, nation numéro 3 mondiale, au Stade de France. Donc, autant un petit peu de calme, en tout cas pour les acteurs.
Alors Guy Noves, son bilan, on le rappelle, à la tête du 15 de France, Bertrand Latour nous a redonné les chiffres tout à l'heure, 7 victoires, 13 défaites et 1 nul en 21 matchs. C'est vrai que le bilan n'était pas...
C'est le plus mauvais de l'ère moderne, d'une certaine façon.
Il faut reconnaître ça. Néanmoins, la méthode employée, la façon dont ça s'est passé, a beaucoup marqué Guy Noves, l'ancien sélectionneur. Écoutez-le, il semble anéanti.
Je suis anéanti par ce qui m'arrive. Anéanti par ces choix qui ont été faits. Sans même les voir venir, sans même m'en avertir, et en plus en apprenant ce choix-là par l'intermédiaire de la presse et non pas comme il se doit. Donc effectivement, ça augmente ce que je peux ressentir et ce que ressentent autour de moi tout ce qui m'aime.
On vous accuse d'avoir commis des fautes graves, est-ce que vous le comprenez ?
Déjà, vous dites des, donc il doit y en avoir beaucoup. et plus sérieusement, là, j'ai pas trop envie d'ironiser parce que c'est tellement abject comme adjectif, compte tenu de mon investissement avec celui de mon staff, que je vais laisser les gens compétents traiter ce genre de dossier.
Voilà pour Guy Noves au micro RTL de Patrick Hisson. On le sent bien, très marqué. Et la bataille s'annonce, on l'a dit, rude dans le rugby français. Merci Jean-Michel, à tout à l'heure.
Merci.
Depuis la U Arena.
Racing Clermont.
Pour ce Racing Clermont qu'on vivra en même temps que la Coupe de France, Rennes-Paris-Saint-Germain en football. Juste après la pub, on parle handball. Il y a un championnat d'Europe qui va débuter en Croatie dans quelques jours. Le 12, l'équipe de France est prête, même si elle a perdu son dernier match de préparation contre le Danemark. Didier Dinard, le sélectionneur, est avec nous juste après la pub.
RTL en direct de l'équipe, Eric Silvestro.
19h46 sur RTL, RTL en direct de l'équipe, votre rendez-vous Omnisport. On parle handball désormais avec la France, championne du monde l'année dernière à Bercy, qui va attaquer l'Euro en Croatie. Didier Dinard, le sélectionneur des Bleus, est avec nous. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Vous avez terminé votre préparation par une défaite, on va en parler, face au Danemark, 29-28.
Terrible.
Ouais, un but à la dernière minute, la France a mené quasiment tout le match.
À la dernière seconde.
Ça ne remet pas tout en cause, Didier. C'est jamais agréable de perdre, et surtout vous qui êtes, je sais bien, un sélectionneur exigeant, mais quand même, c'est pas très grave.
c'est grave, mais c'est pas très très grave. Non, c'est vrai qu'on a, on a fait un match assez engagé toute la rencontre. C'est une équipe qui a énormément de dynamisme d'une manière générale, qui exploite toutes les règles. L'équipe s'est vraiment donnée à cœur joie à cette rencontre. On a pu voir des joueurs qui ont demandé la rotation d'eux-mêmes, comme Nicolas Karabatic, Cédric Sorando ou Zika même. C'était vraiment très poussé, très engagé d'une manière générale. Et donc, c'est les joueurs, aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir des certitudes, puisqu'il y a une liste quand même à donner demain matin. Ah. Donc, la nuit, il y a encore quelques petites réflexions à avoir.
Elle est prête, cette liste? Déjà 16 ou 17 joueurs, vous avez tranché ou pas?
On n'a pas encore tranché, mais oui. Une chose qui est sûre, c'est qu'il y en aura 16. Donc après, stratégiquement, on décidera si on part à 17, puisqu'il faut encore faire une échographie de la cheville de Luka Karabatic pour savoir quel va être le protocole à suivre.
Blessé contre l'Égypte hier, hein.
Blessé contre l'Égypte hier. Donc il y aura un protocole à suivre avec aussi, bien évidemment, l'accord de son club.
Oui, ça c'est sûr qu'il faut faire la liste et ça c'est compliqué. Vous avez parlé des certitudes. Mais bon, comment... Nicolas Karabatic, ouais. On l'a vu extrêmement mutilé comme d'habitude. On a vu un Vincent Gérard qui va quand même occuper cette fois officiellement le poste de numéro 1 avec la retraite de Thierry Meyer. Complètement rassurant. Là-dessus, il n'y a pas de souci, hein, Didier.
Non, il n'y a pas forcément de souci, on va dire. Hein. C'est vrai que si on regarde la dernière Golden League qui a été faite au mois de novembre, ça a été vraiment poussif. Là, on avait été entamé dans notre capital confiance. Aujourd'hui, c'est vrai que le fait d'avoir eu un peu plus de temps de préparation, les joueurs se sont rassurés et puis on a pu voir peut-être des possibilités aussi de jouer, pourquoi pas, avec un demi-centre gaucher, comme dit quand même.
Oui, parce qu'encore une fois, Didier, on va vous attendre sur cet Euro. Alors, c'est vrai que les matchs ont été intéressants. Là, on est au plus proche de la compétition. En novembre, on était un petit peu loin. Ça ne reste qu'un tournoi amical, mais il y a quand même un match très accroché face au Danemark. L'équipe de France mène quasiment pendant toute la rencontre. Les Norvégiens ont été battus dans un remake de la finale des championnats du monde.
Et ça sera le premier adversaire, le 12, le match important, voilà. Hein, pour l'ouverture de l'Euro. Hein.
Comment vous l'abordez toujours avec ce statut? En gros, c'est clair, faut gagner.
Oui, c'est clair, faut gagner. Mais c'est vrai qu'on se rend compte quand même qu'il y a Thierry Meyer, Daniel Nersis qui ne sont pas là, Olivier Gnokas, Ludovic Fabregas qui est blessé. Donc à l'arrivée, c'est vrai que plus ça va, forcément, l'équipe de France a un statut à respecter. Si on vous dit qu'on est outsider, ça ne va pas coller. Donc on a forcément un devoir de résultat malgré les retraites, les blessés. Donc
parce que Didier, vous travaillez aussi sur le futur. Je sais que, enfin, le futur, le présent, bien entendu, c'est la priorité. Mais c'est quelque chose qui est dans l'ADN de cette équipe. On a une base, voilà, on est toujours à penser au renouvellement. Donc, moi, sincèrement, je me dis que sur 7 euros, si l'équipe de France fait une demi, ce sera un très bon résultat. Parce qu'il y a quand même des... Mais si, Eric,
mais
si.
Non, l'équipe de France a l'habitude.
Ouais, non, mais oui, mais toi, tu veux qu'on gagne tout le temps.
L'équipe de France a toujours un devoir de résultat. C'est-à-dire que l'objectif reste d'accéder aux demi-finales. Mmh. Après, on sait très bien que quand on rentre dans le dernier carré, les joueurs, d'une manière générale, en font ce qu'ils veulent. Donc, c'est la dynamique du groupe qui se laisse emporter d'une manière générale. Et puis, l'équipe de France, quand elle accède aux demi-finales, en général, ça se passe plus ou moins bien. Mais avant ça, on sait très bien que le match du 12 est capital pour l'équipe de France, puisque une défaite contre la Norvège, je voudrais dire qu'on est au golavérage particulier derrière eux, et il va falloir passer au groupe suivant face aux pays hôtes, qui est la Croatie.
Et oui, ça va être compliqué. Et puis Sylvain, tu disais le championnat d'Europe, ça remonte à la médaille de la France en championnat d'Europe, parce qu'il y a deux titres de champion du monde en 2015 et 2017,
médaille
d'argent au JO en 2016, mais la dernière médaille au championnat d'Europe, c'est 2014, hein, c'est ça, Didier?
Ouais. 2014.
Ah, c'est terrible.
On reste peut-être comme le foot, hein, on reste sur les 4, tous les 4 ans. Donc, ça va peut-être coller cette année, non?
Ouais, j'espère.
Vous avez dit qu'on allait gagner, donc je fais confiance.
On le souhaite. C'est vrai qu'on a tellement l'habitude qu'elle gagne, cette équipe de France de handball. Vous aviez évoqué tout à l'heure, là c'est vraiment pour les spécialistes de handball, mais c'est pas inintéressant, le poste de demi-centre, le poste d'arrière gauche, il y avait pas mal de questions. C'est vrai qu'il y avait un Timothée Nguessan qui était un peu en difficulté. Aujourd'hui, par exemple, il a fait un gros match, hein, il va vous mettre le doute dans la tête, hein, par exemple.
Oui, Timothée Nguessan a été à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer de lui. Il a été en difficulté. Mais c'est pas non plus une surprise, parce que c'est un joueur qui est très efficace en club. Quelquefois, on ne sait pas pourquoi, les choses ne vont pas. Donc, il a été rassurant aujourd'hui. Nicolas peut aussi occuper ce poste. Et nous avons les gauchers, le poste d'arrière-droit et d'ailier droit qui est très fourni. Donc, maintenant, on charge aux entraîneurs de faire le nécessaire pour avoir l'équipe la plus cohérente possible par rapport en vue du championnat d'Europe.
Une question toute bête, vu que le poste était un petit peu, on va dire, compliqué. On n'est pas à l'abri d'une énorme surprise. Par exemple, est-ce que Daniel Nersis aurait le droit d'être inscrit sur la liste?
Daniel Nersis aurait le droit, bien évidemment, mais il ne fait pas partie de la liste des 28. En revanche, Thierry Omeyer, oui.
Ah, pour jouer dans le champ.
Mais Thierry, c'est sûr qu'on voit l'efficacité qu'il a encore en championnat. Oui. Il a tout simplement accepté d'être réserviste en cas de blessure de Vincent ou de Cyril. Donc, et qu'on accède aux demi-finales. Donc, si Thierry vient en équipe de France en cas de malheur, c'est de bon augure pour l'équipe de France.
D'accord. Donc, on attend quand même jusqu'à demain matin. On ne sait jamais s'il y a une énorme surprise.
La nuit va être courte.
Un dernier petit mot sur Bercy ce week-end. C'était sympa de retrouver Bercy, là où la France a gagné son titre champion du monde en janvier. C'était super ambiance comme d'habitude.
C'était une très bonne ambiance, beau souvenir. C'est vrai que c'était pas simple. Il y avait énormément de pression lors de ce mondial en France, puisque on sait très bien que quand on organise une compétition, il y a énormément d'attentes. Donc, on se souvient énormément de cette pression qu'il y avait dans les couloirs. J'ai échangé avec Cédric Sorando qui me disait, tu te souviens quand on passait ici, il y avait énormément de pression et on se disait qu'il fallait gagner les matchs.
Mais la pression, l'équipe de France a l'habitude de l'avoir et l'équipe de France répond toujours présente. Et ben, on vous souhaite une bonne nuit de casse-tête peut-être pour la liste. Vous pouvez faire ça en écoutant RTL, Rennes, Paris Saint-Germain et Racing Clermont là pour cocher les dernières cases.
Je pense que je vais m'inspirer de tout ça.
Ça va le faire. Et gardez votre bonne humeur et votre sourire, Didier.
Quand je prends un rugbyman.
C'est un vrai plaisir. Bah, tiens, un petit déménageur en pivot. Merci beaucoup, Didier. À très bientôt. Sur l'antenne d'RTL et bon Euro qui débute en Croatie donc à partir du 12 janvier. Le premier match, on l'a dit, très important face à la Norvège pour un remake de la finale des championnats du monde.
RTL en direct de l'équipe.
En musique, 19h54, les derniers résultats de la planète sport. Et d'abord le direct, parce qu'on continue de suivre les 32e de finale de la Coupe de France, Bertrand.
Et sans doute un nouveau qualifié qui sera connu d'ici quelques instants. Le Stade Briochin mène 1-0 sur la pelouse de Vannes en prolongation. Il reste 4 minutes à jouer. Le Dakar à présent, la deuxième étape. Le Français Cyril Dépéré en auto maintenant l'emporte et prend les commandes du général en moto. C'est Juan Barreda qui a dominé la deuxième étape et il prend lui aussi les commandes du classement général. Du football à présent pour de mauvaises raisons. Vous le savez peut-être, hier Blaise Matuidi a été victime de cris racistes lors d'un match entre la Juventus Turin, son club, et Cagliari. Le club de Cagliari s'est excusé en français sur le compte Twitter. Le Français a également reçu le soutien de la part de son ancien club, le Paris Saint-Germain, et de la part de l'UNFP. Et on termine avec un mot de tennis. Nick Kyrgios qui s'impose à domicile, l'Australien à Brisbane, face à Ryan Harrison, 6-4, 6-2 de bon augure donc avant l'Open d'Australie. Et puis ça se passe toujours aussi mal pour la Française Kristina Mladenovic qui attaque 2018 aussi mal qu'elle a terminé 2017. Défaite face à la 343e mondiale Hélène Pérez à la suite d'un coup de chaud. La Française a dû abandonner.
Ouais, abandonner. Je crois qu'on est à 14 défaites consécutives au premier tour Kristina Mladenovic. Mais lors de son tour de rentrée, elle disait que ça allait mieux. Donc on l'espère. À l'image d'un Gilles Simon qui a gagné à Pune en Inde ou de Gaël Monfils qui a gagné à Doha. Pune. Hier, à Pune, exactement.
Mais elle se réserve pour l'Australie.
Et Gaël, mon fils, qui a gagné le tournoi de Doha. Roger Federer, lui, est prêt puisqu'il a gagné la Hopman Cup avec Bencic et la Suisse. Voilà pour les derniers résultats.
RTL en direct de l'équipe, Eric Silvestro.
19h55, l'heure du coup de cœur de Sylvain Charlet, tant attendu. Alors, quand Sylvain est venu me voir cet après-midi pour me dire... Alors, pour mon coup de cœur cette semaine, je vais parler... de Tess Le Deux. C'est une jeu skieuse qui fait du slopestyle. Alors moi, je l'ai regardée avec des grands yeux. Alors Sylvain, pour nos auditeurs, d'abord, qui est cette jeune fille et quelle est cette discipline que je ne connaissais pas?
Bon, commençons donc par répondre par ces deux questions. Alors Tess Le Deux, elle est savoyarde comme Bertrand Latour.
Oui, d'abord, déjà Saint-Maurice, elle a fait le même lycée que moi.
Voilà. Elle n'a que 16 ans et elle est déjà championne du monde. C'était en mars dernier.
À peine moins que Bertrand Latour.
Exactement. Et championne du monde à 15 ans, donc elle a décroché ce titre en mars. Et donc, c'est une discipline assez clairement inconnu du grand public. Ma mère ne sait pas ce qu'est le ski slopestyle. Eh bien, écoutez ce qu'est le ski slopestyle. L'explication vous est donnée par l'intéressé Tess Le Deux.
En gros, le ski slopestyle, c'est un enchaînement de sauts et de barres de fer qu'on appelle des rails, donc sur une piste. Et le but en compétition, c'est d'enchaîner tous ces modules en étant le plus stylé et le plus technique possible. Et après, on a une note sur 100 donnée par 4 juges.
C'est clair? Vous maîtrisez.
C'est parfaitement clair.
Jusque-là, c'est clair.
Bon, jusque-là, ça va.
Elle s'exprime parfaitement. Hein.
Alors, oui, exactement.
Elle est à l'aise,
hein. Mieux que certains footballeurs professionnels.
Ça, je n'osais pas le dire, mais en 2018.
Faire le show sur la neige, vous allez le comprendre, Tess, ça, c'est quelque chose qu'elle a toujours eu en elle. Elle a chaussé ses premiers skis à seulement 2 ans.
Dès que j'ai commencé le ski, j'arrivais pas à suivre le moniteur en faisant des petits virages tout simples. Je voulais toujours aller chercher la petite bosse sur le côté de la piste. Donc, je pense que c'est venu naturellement. Et c'est surtout que j'aimais pas l'alpin et je voulais vraiment sauter et me retrouver dans les airs, quoi.
Voilà. Je n'ai pas le sens de la figure de Tesla 2.
Il y a des enfants comme ça. Moi, je vois les miens au ski. Bah, ils sont plus attirés par les bosses que par la piste.
Donc, oui, voilà, le slopestyle. Donc, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Tesla 2, elle est très entourée. Ses parents vivent à Lapline. Ils sont restaurateurs. Elle a sa grande sœur qui a fait du ski de très haut niveau, qui l'a conseillée, qui était également dans ce ski acrobatique, mais qui aujourd'hui a décidé de se retirer. Et elle peut aussi compter, Tesla, sur le soutien de son cousin. Et son cousin, ce n'est pas n'importe qui. C'est Kevin Roland. Et Kevin Roland, voilà, il a été médaillé de bronze en ski halfpipe et en fait les deux voyagent en équipe de France partout dans le monde.
Il est toujours là un peu pour me rassurer quand ça va pas trop à l'autre bout du monde. Et puis ouais, bah on va partir au jeu ensemble, ça c'est quelque chose de fou. Notre famille, ils sont à fond derrière nous. Donc on a hâte quoi. Et on espère tous les deux qu'on va pouvoir ramener une médaille.
Voilà, ramener une médaille, pourquoi pas. Je vous l'ai dit, ce sera la grande favorite de la compétition. Alors déjà, j'entends certains auditeurs, je les entends là à l'antenne, se dire que eh bien, les études dans cette histoire, on en est où? Eh bien, Tess est une adolescente très bien organisée.
Alors, je suis dans un lycée d'été, donc je suis en cours d'avril à octobre, donc y compris juillet-août, donc c'est pas toujours facile quand les autres sont en vacances. Et puis l'hiver, je suis en cours par correspondance, donc là c'est un peu plus compliqué, je trouve pas souvent le temps de travailler, mais j'essaie vraiment de garder un équilibre entre le ski et les études parce que les études c'est important quoi.
Ouais, c'est important, il est aussi très important pour Tesla 2, retenez ce prénom et ce nom, d'aller chercher une médaille olympique, ce sera le 17 février prochain en Corée du Sud, le même jour que Tessa Worley, on pourrait avoir un double médaille ce jour-là, elle sera donc la grande favorite du ski slopestyle en l'absence de sa meilleure rivale, la Lettonne Kelly Sildaru, qui s'est blessée en milieu d'année au genou.
Moi, j'ai tout compris maintenant. C'est vrai, c'est bon. Je vais suivre Tesla 2 avec beaucoup d'attention.
Merci à vous.
Petite évolution avant la une de l'équipe, comme le veut la tradition en fin d'émission sur la Coupe de France.
Oui, j'ai un peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ah. Je vous annonçais peut-être la qualification du Stade Briochin en prolongation. Eh bien, écoutez, égalisation de Vannes il y a de cela quelques instants. Un but partout entre Vannes et le Stade Briochin. Un pénalty de Dufresne pour les Breton, donc on se dirige peut-être vers une énième séance de tir au but ce dimanche.
Eh bien, merci Bertrand.
RTL en direct de l'équipe.
La une de l'équipe.
19h59, la une de l'équipe avec notre camarade Hervé Fouillé. Bonsoir Hervé.
Oui, bonsoir à vous.
La Coupe de France évidemment à l'honneur, j'imagine, demain à la une de l'équipe.
Oui, on aura évidemment plein pot la Coupe, les exploits de Granville, et puis on va surveiller l'affiche de ce soir. Rennes-Paris, bien évidemment.
Et oui, parce que rien ne sera pardonné aux joueurs parisiens après leur retard divers et variés à l'entraînement cette semaine. Une élimination à Rennes ferait tâche à quelques semaines d'affronter le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions. Merci beaucoup Hervé, au plaisir de vous lire, vous et vos confrères, demain matin dans tous les kiosques et puis dès minuit et demi pour la version numérique. RTL en direct de l'équipe, votre rendez-vous Omnisport est terminé. On se retrouve juste après les infos pour le football, la Coupe de France. Soirée spéciale jusqu'à 23h au minuit autour de Rennes, Paris Saint-Germain et tous les invités des exploits de l'après-midi, notamment Granville qui a sorti Bordeaux.